Voilà. Alors moi j'ai d'abord une question. En quelle langue a été écrit l'évangile de Thomas?
Bien, alors nous avons deux versions de l'évangile de Thomas. Une version lacunaire, quelques fragments qui ont été écrits en grec, hein, et que l'on appelle le papyrus d'Oxyrhynque, qui semble avoir été la première à être rédigée. Mais nous n'avions que des fragments. Et ensuite nous avions une version complète, hein, qui a été découverte dans la bibliothèque de Nag Hammadi, en Haute-Égypte, par un paysan égyptien. Et cet évangile de Thomas est écrit en copte, c'est-à-dire dans la langue ancienne de l'Égypte, la langue sacrée de l'Égypte chrétienne. Hein, et donc, il était dans une bibliothèque gnostique, dans une jarre au milieu d'autres manuscrits, si vous voulez. Alors, la version copte est complète, et c'est celle que j'ai reproduite, traduite par Philippe de Suarez dans mon ouvrage. Mais on a découvert justement des correspondances avec les fragments qu'on avait déjà, les fragments grecs, et d'après les derniers chercheurs, les fragments grecs ont été écrits un petit peu avant. Alors reste le problème de la datation, hein. On hésite, quand est-ce que cela a été fait, au début du second siècle, plus tard, tout cela est très controversé. Le copte a certains mots qui viennent du grec aussi, hein, on pourrait appeler ça le grécopte, un mélange. Par exemple, seul se dit monos en copte, monos, solitaire, les solitaires monakoi qui a donné moine, etc. Donc c'est une langue qui comporte aussi quelques mots grecs. Voilà.
Vous avez dit que ceux qui avaient atteint plus ou moins cette unité profonde, c'était les mystiques, les fous. Bon, et vous avez, je ne sais plus, j'étais d'accord sur la liste, et vous avez ajouté les femmes. Or, les poètes qui ont peut-être le mieux réussi, ce sont des hommes, Baudelaire, Rimbaud, Nerval.
Qu'est-ce que vous faites de, par exemple, Louise l'Abbé, Pernette Duguillet, et puis il y a tant d'autres.
Non, mais c'est vrai qu'il y a plus d'hommes que de femmes, enfin bon, ça c'est...
Oui, mais c'est évident. Mais comment dire? Moi, je pense quand même que l'artiste, même homme, a un côté féminin, féminoïde, si vous voulez. Hein. Oui, Marie-Noël aussi. Donc, il doit pour pouvoir se couler dans la vie. Il doit, pour pouvoir atteindre cette porosité, il doit épouser différentes postures. À la différence de ce qu'on croit, l'artiste n'a pas un moi fort, mais un moi labile, c'est-à-dire souple, si vous voulez. Hein. Prenez Shakespeare, par exemple, il s'est efforcé de n'être rien. Hazlitt, un critique anglais, disait à propos de Shakespeare, « He is nothing in himself », il n'est rien en lui-même. Et alors, n'étant rien, il peut être le vent sur la lande, l'eau de la mer, la tempête, etc., vous voyez. Hein. Donc, je crois que les valeurs qu'on dit viriles, c'est-à-dire s'affirmer, l'énergie, ne sont pas des valeurs artistiques. Hein. Et alors, même ces poètes que j'ai cités, j'ai parlé de Baudelaire, j'ai parlé de Proust, etc., quand ils écrivent, pour pouvoir épouser toutes les postures de l'existence, ils doivent, lutter contre l'affirmation de l'ego, en quelque sorte. Hein. L'évangile de Jean dit, si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits, etc. C'est ça, il faut abandonner l'ego, hein, pour accepter, n'étant rien, d'être tout. Qu'est-ce que l'art, disait Baudelaire, prostitution de l'âme. Il parle d'une sainte prostitution de l'âme, c'est-à-dire se couler justement dans toutes ces différentes postures. Et je crois que le féminin, hein,
Bon, vous voyez là au-dessus, vous connaissez l'idéogramme du Tao, hein, le masculin, le féminin, etc. Eh bien, là au-dessus nous dit, soit la vallée du monde, hein, ne pas être la montagne, mais être la vallée, hein, être, il fait l'éloge du souple, si vous voulez, voyez, toute qualité dont on parle habituellement les femmes. Bon. Maintenant, ce que je dis peut être discuté. C'est pas à la mode. Hein. Aujourd'hui, les femmes veulent singer les hommes, etc. Et ça, moi, je n'engage que moi. Hein. Mais il me semble que le féminin est accueil des choses, alors que le masculin, c'est la maîtrise portée sur les choses. Il me semble. Mais ce que je dis n'est pas à la mode. Hein. Madame.
Justement, moi, quand vous avez parlé de la femme en même temps que des enfants, des mystiques, etc., j'ai pas pensé spécialement aux femmes poètes. J'ai pensé à la femme en général, à cause de ce que vous venez de dire. Il me semble que la femme a une sensibilité qui favorise...
Elle est plus intuitive.
...l'intériorité. Je pense que la femme a plus de disposition à l'intériorité.
Oui, moi je suis tout à fait de cet avis. Elle s'ouvre vers le monde aussi, hein, alors que l'homme veut vraiment laisser sa imprimer sa marque sur les choses. Hein. Et puis l'homme veut inspecter, je ne sais pas, je faisais un test par exemple, si quand vous ouvrez la main, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites ça, c'est-à-dire regarder vos ongles, ou bien est-ce que vous faites ça, hein? Bon, demandez-vous, instinctivement, hein? Eh bien je vais, pas comme ça, mais est-ce que vous faites ça, ou bien est-ce que vous faites ça, hein? Bon. Vous faites ça, voilà, ben ça c'est la femme. Et l'homme, hop, il inspecte, hein, il inspecte ses ongles, etc. Hein, et une femme étend ses doigts, vous voyez, hein. Donc, nous ne sommes pas en vidéo, malheureusement ça ne pourra pas passer sur le... La femme étend les doigts, l'homme inspecte ses doigts.
Madame. On n'a pas donné à la femme pendant des siècles la possibilité de s'exprimer et de prouver ce qu'elle... ce dont elle était capable, quoi. Puisqu'elle a été sous les teignoirs pendant très très longtemps. Hein. Oui. Alors, c'est pour ça que...
Je pense que oui. Oui, il vient d'être dit que la femme n'a pas eu l'occasion de s'exprimer comme les hommes. Mais, bon, il y a de très grands écrivains femmes. Colette, tenez, puisque j'ai parlé de l'hypallage, hein, regardez, elle voit un écureuil sur un sentier. Qu'est-ce qu'elle va écrire? Le bon roux d'un écureuil. Vous voyez, parce que elle voit pas l'écureuil d'abord, elle voit une boule rousse qui fait un bond. Voilà, le bond roux d'un écureuil, voilà l'hypallage. Hein. Donc c'est l'écureuil l'est reconnu simplement après. Bon, mais d'abord on voit un bond roux, hein, quelque chose qui saute. Bon, il y a une autre question là.
Oui. Pardon. Question de l'enfer, je partage tout à fait cette pensée de maître Assidim de l'Europe centrale. L'enfer existe, mais il est de ce monde et personne ne veut le divulguer. Et secondement, question de séparation des espèces, j'ai fait le rapprochement avec les cultures OGM. Et ça m'a paru être un crime contre la séparation des espèces.
Oui, alors avec le premier point, absolument d'accord. Hein. Nous sommes dans l'enfer. Il y a dans les quatre évangiles un évangile à tendance gnostique qui le dit, c'est l'évangile de Jean. C'est le quatrième évangile. Hein. L'évangile de Jean parle du monde toujours péjorativement. Le monde, c'est en grec cosmos, hein. Regardez par exemple une phrase, je vous la dis d'abord en grec, « Ento kosmo klipsin ekete, alla tarsaite ego nenikeka ton kosmon ». C'est-à-dire, dans le monde, vous avez la tribulation, klipsis, voilà le mot essentiel, vous avez la tribulation, mais ayez confiance, moi j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le monde. Donc, la tribulation, klipsis, c'est exactement ce qu'en Inde on appelle le samsara. samsara. Hein. Le samsara, c'est le contraire du nirvana. Le nirvana, c'est l'extinction du désir et la béatitude. Samsara, c'est le... Oui, voilà. C'est la, une espèce de tribulation. C'est exactement la clipsis johannique. Alors, tous les, malgré ce que dit la Taube et les commentateurs, etc., qui veulent débarrasser l'évangile de Jean de, d'influence gnostique, moi je suis persuadé que c'est un évangile gnosticisant, hein, puisque le monde est toujours dévalorisé. Satan fait le prince de ce monde, etc. Hein. Alors, d'ailleurs, dans la phrase que je viens de dire, vous avez des tribulations dans le monde, j'ai dit ekete, entokosmot lixin ekete. Mais vous avez une variante bien pensante, en bas de, du texte, qui dit ekete, vous aurez des tribulations dans le monde, pour signifier que l'enfer vous attend plus loin. Mais non, le texte qui fait foi, c'est le fameux ekete et non pas ekete. Hein. Faut bien regarder les variantes. Bon, quant à votre deuxième question, concernant les OGM, alors, bon, la Bible dit « chaque chose doit être faite selon son espèce ». Bon, il est sûr que on ne peut pas, effectivement, de ce point de vue, si on prend littéralement le texte, intervenir là-dessus, hein, intervenir. Mais c'est une question moi qui dépasse ma compétence. Ça. Moi, je suis un littéraire. Je ne sais pas. Vous avez une idée, vous, précise là-dessus sur.
Oui, je pense que le danger des OGM, c'est qu'il peut polluer des cultures normales, traditionnelles, biologiques, et qu'il hypothèque l'avenir. Comment se débarrasser de ce que l'on ne crée. C'est pour moi la même chose que l'homme qui s'en va vers l'atome en ne connaissant pas, en ne sachant pas résoudre la question des déchets nucléaires. Il hypothèque l'avenir et est un criminel contre les générations futures. Or, vous avez parlé qu'on devait être usufruitier et locataire de l'univers et non pas propriétaire.
Mais s'il y a une énergie qui ne soit pas polluante.
Y a-t-il une énergie qui ne soit pas polluante? On verra. On verra. Moi, je vous signale que... Attendez. Attendez. Je m'excuse. Ça peut-être ça vous fait paraître artificiel, ça. Mais pour que ça passe bien sur le blog, pour que vous puissiez bien écouter, surtout la discussion, il faut parler devant le micro. Sinon, après vous pourrez l'écouter sur Internet. Donc, vous savez, pensez... Il y a des gens aux États-Unis, par exemple, qui nient le réchauffement climatique. Bon, parce que ils pensent un peu comme certains adventistes que la nouvelle parousie de Jésus, la parousie, c'est-à-dire la venue sur la terre. Hein. Il y a deux parousies. Parousie, c'est un mot grec qui veut dire venue. Hein. Bon, en latin, c'est adventus, la venue que vous avez dans le mot avant. Hein. Avant, donc c'est le mois qui précède Noël, la venue symbolique du Christ. Hein. Donc la première venue de Jésus, c'est une venue en humiliation, comme on voit dans l'épître aux Philippiens chez Paul. Hein. Il s'est dépouillé lui-même et a pris une forme d'homme, donc c'est ce qu'on appelle la kénose, puisque vous avez en grec ekénosen, il s'est vidé, donc il s'est dépouillé lui-même, il est venu à une humiliation. Après il est mort, il est ressuscité, mais il reviendra. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui différencie les chrétiens des juifs. Les juifs disent « il viendra », s'agissant du Messie, il n'est pas encore venu, tandis que les chrétiens disent « il reviendra ». Bon, maintenant, le problème est de savoir quand est-ce qu'il va revenir. Si vous dites qu'il va revenir très vite, hein, que la parousie va se faire comme chez certains adventistes, très très rapidement, alors on peut gaspiller, hein. On peut très bien aller en 4x4, etc., ne pas économiser le carburant, vous voyez, etc. Hein. Donc, certains mouvements, vous voyez, le danger d'une eschatologie sur la vie pratique. Hein. Si vous pensez que Jésus va revenir très vite, bon, bah, à ce moment-là, on fait ce qu'on veut, etc. Tandis que, comme vous le disiez, si vous pensez plus loin, hein, à ce moment-là, il faut faire son deuil d'une eschatologie, de ce qu'on appelle l'imminence eschatologique, c'est-à-dire la survenue très 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 rapide. Vous voyez, hein? Donc comme des questions théologiques ont des implications, je dirais, économiques, souvent on n'y pense pas, hein? On ne pense pas à ces implications. Moi je pense qu'il faut abandonner l'eschatologie. Hein? Bon, laissons-la où elle est. Vous savez qu'il y a des gens qui pensent que la fin du monde va arriver en 2012. Seul un village de l'Aude qui s'appelle Bugarac en sera épargné, au point que les maisons et les terrains ont pris une plus-value extraordinaire. Donc, voilà. C'est des mouvements comme chez les millénaristes, chez certains adventistes, etc. Donc, je crois qu'il faut, faire son deuil de l'eschatologie.
Oui. Excusez-moi, moi je voudrais revenir sur une question. J'ai peut-être pas bien compris, mais il me semble que vous avez opposé les personnes qui s'intéressent à la vie maintenant et à la vie plus tard. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Et ce n'est pas une question d'enfer ou de sur la terre, certes il y a, ou d'enfer après, je n'en sais rien. Mais moi je vois le bonheur, je cherche dans la vie à créer un peu plus de bonheur et j'espère que dans la vie après la mort, il y aura aussi du bonheur. Je ne vois pas l'opposition entre les deux. Je n'ai peut-être pas bien compris.
Oui, bon, le problème de la vie après la mort, c'est qu'on n'en sait rien. Hein. Donc, dans la liturgie de l'Église, moi je viens d'un milieu catholique, hein, donc on disait ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Voilà, dans l'espérance, c'est une espérance, ce n'est pas une certitude. Donc on n'en sait rien, on ne peut rien en dire. La recherche du bonheur, ben c'est évident. Hein. Mais n'oubliez pas que, comment dire, on a souvent, et c'est dans le credo, menacé les gens du jugement dernier. Alors, ce jugement dernier, il vient d'où, hein? Eh bien, il vient du livre de Daniel, bon, la nouvelle parousie. Hein. Bon, le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel. Hein. Ça passe dans le credo de Nicée-Constantinople. Hein. Oui, mais enfin, peut-être que le credo, on le récite, et de nouveau, il va venir dans la gloire juger vivants et morts. Hein. Et iterum, enturus est, cum gloria, iudicare, vivos et mortuos. Donc, ce jugement dernier, il existe en tant que dogme, au moins dans l'Église catholique. Peut-être pas chez les protestants et a fortiori les libéraux, mais on a menacé les gens, justement, de ce jugement. D'ailleurs, dans nos cimetières, au moins, je sais pas, chez les protestants, je n'en sais rien, mais il y avait toujours le fameux PPL, prier pour lui. Bon, PPL, prier pour lui, ça veut dire, s'il faut prier pour celui qui est mort, ça veut dire qu'il faut l'aider par ses prières. Bon,
moi je ne prie pas pour les morts, je demande aux morts.
Oui, mais sur toutes les tombes, vous avez PPL, prier pour lui. Donc, c'est qu'il faut aider quelqu'un qui va passer en jugement par sa prière, en vertu du dogme de la communion des saints. Mais là, je parle pour le milieu catholique, si vous voulez. Hein. Je pense qu'il suffit de penser aux morts. Il suffit de penser à eux. Hein. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants, disait Victor Hugo. Donc, il faut penser aux morts, mais prier pour eux, ça, simplement, oui, mais ça encore, certains sont des réflexes encore. Par exemple, s'il y a des victimes d'un attentat, on va vous dire prier pour eux. Hein. Mais non, il faut penser à eux et puis c'est tout. Mais prier pour, c'est pour aider, si vous voulez, en fonction de cette idée d'un jugement dernier. Moi, je pense que le jugement, celui que nous pouvons porter sur nous-mêmes si nous nous regardons vraiment vivre, hein, si vous voulez. Le seul jugement, alors, le jugement en grec se dit krisis, hein, qui a donné le mot crise dans le grec du Nouveau Testament. Bon, eh bien, dans l'évangile de Jean, vous avez l'idée que le jugement doit se faire dès maintenant. Celui qui écoute ma voix n'entre point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est une citation, un verset joannique. Eis Christin huk erketai, il ne vient pas dans le jugement, il n'entre pas en jugement, à la metabebeken, mais il est passé, c'est un parfait, de la mort à la vie. Donc, il faut dès ici-bas, comme dit l'évangile de Thomas, passer de la mort à la vie, et alors, on n'entre point, il n'y a pas de jugement.
Mais pour passer de la mort à la vie, il y a quand même des conditions à remplir. Et ces conditions, c'est Jésus. Jésus n'est pas venu pour rien. Et tout à l'heure, vous avez dit que la notion du jugement dernier venait du livre de Daniel, mais il n'y a pas que dans Daniel. Daniel, c'était une prophétie. Et nous le retrouvons dans le Nouveau Testament. Jésus lui-même a parlé du jugement, et nous le retrouvons aussi dans les actes, je ne saurais plus exactement vous le dire, mais dans les épîtres. Le jugement dernier existe, et nous le voyons aussi dans l'Apocalypse. Donc, si on nie le jugement, eh bien on peut fermer toute la Bible.
Non.
Et Jésus aussi parlait de l'enfer. Bon, moi, personnellement, je ne vois pas du tout l'enfer comme le catholicisme l'a vu. Je ne le vois pas comme ça. Moi, l'enfer éternel, souffrir éternellement, je ne le vois pas non plus comme ça, parce que je sais qu'ici, il y a des personnes qui ont fait de l'hébreu, j'en ai fait très peu, mais éternité, dans l'hébreu, ça veut dire « olam », et quand on dit « d'éternité en éternité », ça veut dire qu'il y a plusieurs temps. C'est pas un temps éternel. Moi, je crois vraiment à un jugement dernier. Je ne sais pas exactement ce qu'il sera, mais je crois vraiment qu'il y aura une séparation entre les justes et les injustes. Ça, je le crois, parce que tout simplement parce que Jésus l'a dit. Et si on ne croit pas ce qui est écrit dans la Bible, eh bien, on fait Jésus menteur.
Bon. Alors.
Dans la mesure où Jésus a quitté la gloire alors qu'il était dans le ciel, qu'il fait partie de la personne de Dieu, qu'il est venu sur cette terre pour souffrir, pour être notre substitut, pour prendre notre place à la croix, c'est qu'il y a quand même quelque chose de grave. Autrement, pourquoi Jésus est venu nous souffrir à la croix? C'est parce qu'il est venu nous arracher un danger, c'est pour nous délivrer du péché et pour pouvoir passer de la mort à la vie, comme c'est écrit dans Jean. Eh bien, il faut remplir des conditions, c'est-à-dire voir son état de pécheur, passer par la repentance, accepter le don de Dieu, parce que Dieu a donné Jésus pour notre salut, c'est-à-dire pour que nous ne soyons plus jugés, parce que à la croix, Jésus a pris notre place. Il a payé nos péchés. Voilà ce que je crois.
Bien, alors ça, c'est la vision, effectivement, la plus répandue, qui évidemment est discutable. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous développez, c'est la vision paulinienne, qui est la vision majoritaire. Non, mais attendez, prenons les dates. Vous avez d'abord le livre de Daniel. Bon, ensuite, vous avez les épîtres de Paul, en rédaction, Non, mais vous avez les épîtres. Bon, vous avez les épîtres aux années 50. Les évangiles sont rédigés après. Marc d'abord, vers 60, 70, et puis Jean le dernier, vers 100, 110, peut-être, etc. Donc là, nous avons une chaîne de textes, et l'apocalyptisme dont vous parlez, cette idée d'eschatologie, et de jugement dernier vient d'abord du livre de Daniel, et effectivement ça passe après dans les évangiles, chez Matthieu par exemple, etc. Bon, ce qu'il y a, alors à mon avis, c'est qu'il y a dans, prenons simplement les évangiles, des strates rédactionnelles très différentes, très différentes dans le texte reçu, appartenant à des théologies extrêmement diverses, et on ne peut pas faire, en regardant le texte de l'évangile ou des évangiles tels que nous les avons, de portrait unifié du personnage de Jésus. C'est impossible. C'est quoi?
C'est la parole de Dieu qui nous l'éclaire. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu.
Oui,
ah ben, dans ce cas, vous doutez de la parole de Dieu, madame.
Bon, alors donc, non, mais attendez, vous défendez ce qu'on appelle l'inhérence biblique, c'est-à-dire la Bible ne se trompe jamais. Bon, moi je vous dis, quelle Bible, quelle traduction, hein, et même dans les passages reçus, vous avez des visions du monde, hein, et de la foi extrêmement différentes, qui se succèdent très vite, très vite, et qui sont, à mon avis, incompatibles entre eux. Donc, on ne peut pas penser qu'un même personnage ait dit, par exemple, le passage que je vais vous citer. Prenez l'évangile de Luc, hein, Luc chapitre 17, verset 21 et suivant. Bon, alors, voici ce que l'on lit. Hein. Lisez bien ça. Luc 17, et puis à partir de... Vous l'avez, la Bible? Tiens, ben voilà, montrez-le-moi. Vous allez voir. Vous allez me dire s'il y a de l'unité là-dedans. Chez moi, on dit, en provençal, on dit, à force de pétasser, on perd le drap. Hein. Eh bien, là, c'est un sacré exemple de rapetassage. Montrez-le-moi, votre passage. Alors... Non. Bon, pas tous en même temps. Il y a pas la traduction. Hein. La traduction, oui, d'accord. Alors, Luc 17. Non, mais écoutez. Surtout vers la fin. Bien. Alors, je lis. Luc 17. Alors, les pharisiens demandent, Luc 17, 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Donc, ils sont dans l'attente eschatologique. Hein. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc, ils ne se voient pas. Il ne vient pas de manière à frapper les regards. Hein. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici... Le royaume de Dieu, votre traduction est fausse, vous avez, est au milieu de vous, c'est à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, c'est une fausse traduction et on vous dupe. Parce qu'en grec...
Je vais vous dire une chose, chez moi j'ai multi-traductions, j'en ai plusieurs. Je n'ai pas que celle-ci. Bon, c'est ce petit Nouveau Testament qui vient pratiquer, mais j'ai plusieurs traductions. Et quand quelque chose m'interpelle, je vais...
Bon, mais d'accord, je n'ai pas apporté mon Nouveau Testament en grec, c'est dommage. Mais le texte grec, vous avez Ebasileia, tout est où? Le royaume de Dieu. Attendez. Vous avez Ebasileia, tout est où? Entos, humon, estin. Bon, le texte évangélique est écrit en grec. Hein, donc, moi, je suis helléniste, hein. Donc, en tant qu'agrégé de lettres classiques, j'ai étudié le grec. Bon, que veut dire entos? Entos veut dire à l'intérieur de vous. Entos humon estin. Bon, Jérôme traduit comment? Regnum Dei intra vos est. Très bien traduit. Il dit intra, à l'intérieur de. Hein. Si c'était dit, s'il y avait eu parmi vous, il aurait dit inter, hein. Mais il dit intra vos est. Il est à l'intérieur de vous, hein. Bon. Donc, cette traduction est une traduction idéologique, tendancieuse, hein, qui, fait un contresens volontaire sur Luc 17, 21.
La Bible, ce n'est pas un verset. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement un verset. C'est plusieurs versets mis ensemble. Et quand on connaît la parole de Dieu, on ne va pas s'arrêter simplement sur un verset. On a tout un fil.
Eh bien, je vais vous montrer que ce qui suit, c'est du rapetassage complet.
Attends, mais il faut savoir ce que ça signifie. C'est pas simplement jouer sur les mots.
Eh bien, ce que ça
signifie.
Oula, mais attention, la poésie, moi, je la mets très haut, hein. Attendez, laissez-moi finir mon raisonnement. Bon, le texte de Luc 17-21, le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Si vous prenez la Tob, vous avez en bas en note, on traduit souvent le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, mais cette traduction a l'inconvénient de faire du royaume de Dieu une réalité intime et privée. Bon, autrement dit, quand le texte gêne, on le change, hein. Et alors, c'est vrai que la majorité des traductions, hein, Luc 17-21, ont « Le royaume de Dieu est parmi vous », hein, à commencer peut-être par la traduction de second, hein, il faudrait vérifier. Mais parce qu'on a vu le problème, et on a brûlé Giordano Bruno en 1600 pour avoir dit que le royaume était en nous ou nulle part. Hein, on l'a brûlé, c'est-à-dire que... donc, pour avoir bien compris Luc 17-21. Ce royaume intérieur, c'est exactement celui que vous avez dans l'évangile selon Thomas. Vous avez un logion qui dit, le logion 3, hein, le royaume est un, le logion 3, voilà, de l'évangile selon Thomas. Jésus a dit...
De toute façon, je suis bien d'accord que, selon les traductions, il peut y avoir des variations, mais il y a quand même tout...
Non. Il faut s'entendre sur... Si, Jésus a dit, si ceux qui vous disent voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est le dedans de vous. Vous voyez? Donc, au dedans. C'est donc, là, il y a quoi, là? À 17-21, vous avez quoi? Voilà. Le royaume est au dedans de vous. Alors, ça, c'est très bien traduit. Très bien. Le royaume est au-dedans de vous, entos human estin. Alors, c'est quelle traduction? Alliance biblique universelle. Second révisé, c'est correct. Là, c'est très bien. Le royaume est au-dedans de vous. Alors, si le royaume est au-dedans de vous, ça exclut la médiation cléricale. On n'a pas besoin du tout de prêtres, etc. Hein, voilà. Donc, c'est une affaire intime et privé, hein, on peut rencontrer Dieu en solitude. D'ailleurs, dans le texte de Luc, il n'y a pas de Notre Père, hein, il y a Père, c'est tout. Hein. Le Notre Père vient de Matthieu, hein, vient de Matthieu. Mais dans Luc, vous avez simplement Père, sanctifié soit son nom, etc. Si vous mettez Notre Père, ça signifie qu'on ne peut prier qu'en communauté, hein, en groupe. Hein. D'accord. Mais ensuite, retrouvez-moi la suite de Luc 17, 22. Dès 22, vous allez voir comment ça change. Donc, le royaume 17-22. Dès le verset suivant, hein, vous avez tout autre chose. Voilà. Alors, donc, 20, c'est le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, donc je supprime au milieu. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir un des jours du fils de l'homme, et vous ne les verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le fils de l'homme en son jour. Alors ça, c'est le jugement dernier qui vient du livre de Daniel. Et qui suit, le royaume est à l'intérieur de vous. Eh bien, la nouvelle parousie, le credo le dit bien, il reviendra juger les vivants et les morts. Les millénaristes, bon, ils parlent du millénium, oui, je sais bien. Bon. Non. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne peut pas accorder le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards du verset 20 à... comme l'éclair, il se voit, lui, il brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. C'est une perspective eschatologique et menaçante, n'a rien à voir avec le royaume est à l'intérieur de vous. Absolument rien. Et puis verset 25, tout de suite après, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ça, c'est une troisième vision, mais laissez-moi finir, c'est une troisième vision qui n'a rien à voir avec les deux premières et qui vient de Paul. Et c'est votre fameux sacrifice expiatoire.
Vous voyez, vous Il y a plusieurs étapes. Il y a que vous voulez sauter les étapes. Le moins d'eau, c'est
l'église. Non, non, non. Oui.
Mais déjà, premièrement, voilà.
Voilà, donc, bon, je termine sur cette question. Je termine sur cette question. Pardon? Oui, vous avez raison. Mais simplement, je pense que il y a des strates rédactionnelles très différentes que dans Luc 17-21 affleure quelque chose qui est même dans l'évangile de Saint Thomas, donc qui renvoie à un enseignement de sagesse personnelle, et que à côté de ça, vous avez une strate eschatologique qui est faite de menaces, et une strate d'un christianisme sacrificiel, expier les péchés sur la croix, qui vient de Paul, et l'influence de Paul sur le rédacteur de Luc est évidente. Donc tout ça, ça n'a pas d'unité. Voilà, ça n'a pas d'unité. Alors ce que je dis, effectivement, peut choquer beaucoup de personnes, mais chacun choisit la perspective qu'il préfère. Alors. Oui.
Merci beaucoup. Oui, alors moi je pense que là nous bifurquons un peu sur des discussions théologiques. Et personnellement, plus je vieillis, et je vieillis beaucoup, plus je pense que la théologie n'est pas quelque chose d'absolu du tout, et que donc toutes ces considérations sur l'eschatologie, tout ça, c'est très, très intéressant si l'on veut. Mais à mon avis, est-ce que nous ne sommes pas en train de vouloir toujours raisonner de choses qui nous dépassent totalement et nous ramenons ça sur le terrain de l'espace et du temps, toutes les catégories intellectuelles. Nous ne pouvons pas penser en dehors de l'espace et du temps. Et je crois que les réalités de l'esprit, c'est autre chose. Alors, personnellement, le peu de théologie que j'ai fait ne m'a pas beaucoup marqué, et je suis de plus en plus, réticente. Je pense qu'il ne faut pas faire un absolu de toutes nos interprétations théologiques. Mais là, il me semble que nous sortons un peu de notre sujet. Et alors, si vous voulez, je vous dirais que, pour moi, la poésie, c'est quelque chose d'absolument vital. Je ne pourrais pas vivre sans. Je ne pourrais pas vivre sans essayer d'écrire. Et il y a tout un aspect, pour moi, prophétique dans la poésie, qui rejoint d'ailleurs justement, comme vous nous le disiez, ce mouvement de recherche spirituelle. Et je pense que le prophète dans la Bible, on a tort souvent de penser que le prophète c'est celui qui annonce l'avenir. Non, je crois pas. Je crois que le prophète dans la Bible c'est celui qui parle au nom de Dieu, au nom de quelque chose qui lui a été dit, qui est en lui. Et il me semble que tout modestement, un poète est un peu prophète. Il ne sait pas pourquoi, très souvent, on ne sait pas pourquoi on écrit ceci ou cela. On se dit après, mais c'est pas possible, c'est moi qui ai écrit ça. Parce que c'est quelque chose qui traverse, qui nous traverse complètement. Et je trouve que c'est merveilleux et qu'on peut rendre grâce que Dieu nous ait donné la poésie. Et rendre grâce que vous soyez venu nous dire tout ce que vous nous avez dit de très intéressant. Merci encore beaucoup. Et alors, une petite remarque tout à fait concrète. Pour faire face à certains frais de la salle en particulier, il y a une boîte, on est tout à fait libre de ne rien y mettre, ou si l'on veut y mettre un petit don. Je crois que voilà, c'est une boîte de mouchoirs. Mais en fait, elle est vide pour le moment. Alors, si l'on veut mettre quelque chose, je verrai après avec le pasteur. Voilà. Merci encore.
Non, c'est moi qui vous remercie. J'étais très heureux de parler devant vous. Et n'hésitez pas à garder le contact avec moi. Vous avez toutes mes coordonnées, téléphone et courriel.
Je pense que jusqu'à maintenant, personne n'a été en mesure de prouver l'existence ou la non-existence de Dieu. Et je pense que ce sera comme ça pendant des siècles et des siècles. Alors, pour moi, il n'y a que deux alternatives. Il n'y en a pas trois. Il y a le néant ou la lumière. et je fais confiance. C'est tout.
Oui, vous voulez dire quelque chose?
Non, non.
Non, mais écoutez, encore une fois, merci. Il y a une phrase du préfet romain Simmac, « Uno itinere non potest perveniri ad tam grande secretum ». On ne peut pas parvenir à un si grand mystère par une seule voie. Vous voyez, par une seule voix. Il avait raison, hein, ce Simmac. Hein. C'était un préfet romain, païen, non chrétien. Donc, n'hésitez pas à me contacter, soit par courriel, soit par téléphone, où vous avez toutes mes coordonnées. Je suis très content de ce contact, et je remercie encore une fois Madame Jacot de m'avoir permis de vous parler. C'est très gratifiant pour moi, surtout étant à la retraite. Hein. Voilà. Je vous en prie.